Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro qu'on va consacrer au programme de dématérialisation des autorisations d'urbanisme, le programme DEMAT ADS pour les intimes. Et aujourd'hui, on va parler des services consultés. On en parle un peu à chaque fois, mais on va voir aujourd'hui vraiment quel est leur rôle dans le processus d'instruction, comment ils sont associés au programme, comment ils peuvent se préparer à DEMAT ADS et puis quels outils sont mis à leur disposition pour intégrer la chaîne d'instruction dématérialisée. Et pour en parler, eh bien je suis, comme à chaque fois, en compagnie de Michel Félep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Vous êtes chargée de mission animation territoriale au sein de la direction en charge de l'urbanisme des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et à vos côtés, celui sans qui on ne peut pas parler de DEMAT ADS, Jean-Baptiste Lannes. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Johanna.
Vous êtes le directeur du programme de dématérialisation de l'application du droit des sols, le programme DEMAT ADS, toujours au sein de la direction en charge de l'urbanisme de ces mêmes ministères. Alors je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler des services consultés, un maillon plutôt d'ailleurs, indispensable de la chaîne d'instruction. Oui, bah, c'est l'été, ça y est. Qui sont-ils et quels sont leurs rôles dans le processus d'instruction? Comment sont-ils associés au programme? Comment sont-ils invités à se préparer? Quels outils mis à leur disposition? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui, mais avant cela, un petit détour, puisque c'est une émission un peu spéciale. Un an sur l'antenne de Radio Territoria aujourd'hui pour le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. La première émission était déjà dédiée au programme DEMAT ADS et avait eu lieu le 16 juin 2020. Ça nous ramène presque à une époque ancienne. Il s'en est passé des choses depuis. Une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Radio Territoria et surtout vos agrégateurs de podcasts. Alors Jean-Baptiste, je suis un petit peu obligée de vous poser la question pour cette étape symbolique. Quel bilan faites-vous de cette année sur nos ondes et de bientôt 12 émissions diffusées sur le programme DEMAT ADS?
C'est toujours très difficile de faire des bilans parce que nous, et quand je dis nous, c'est toutes les équipes et toutes les personnes qui travaillent sur le programme. On est très investis encore. On est vraiment le nez dans le guidon et l'œil sur l'échéance du 1er janvier 2022. Donc néanmoins, si je devais faire faire un point d'étape, on a fait 12 émissions avec un certain nombre de principes. Le premier, c'est d'être le plus pédagogue possible et de s'adresser à un public le plus large possible. Et c'est pour ça que les premières émissions étaient consacrées à replanter le décor ou planter le décor qui était très général. Le deuxième sujet, c'est que au fur et à mesure, on a fait des émissions un peu plus spécialisées pour soit des publics, soit des questions un peu particulières. Et puis toujours communiquer aussi, un des sujets qui était important, communiquer sur l'avancement du programme, puisque c'est un programme qui a des développements, qui a des étapes, qui a des travaux en cours avec un certain nombre de jalons qui sont franchis. Donc ça, c'était important. Le troisième sujet, c'est qu'on essaye d'atteindre vraiment tous les publics, et y compris des publics qui ne sont pas naturellement concernés. Et en particulier, on va parler des petites collectivités. On a fait une émission spéciale sur les petites collectivités. On a évoqué aussi, on a essayé d'évoquer ce que cela pouvait représenter pour les élus. Alors, les élus sont forcément concernés, évidemment, mais pas au premier chef. Généralement, ils sont les acteurs du premier cercle, ce sont les directeurs généraux des services ou les responsables de services urbanisme, et dans un deuxième temps aussi les services informatiques. Donc, on a essayé véritablement de diversifier notre communication. C'est devenu au sein du programme un mode de communication auquel on se réfère, qui est annoncé par les directions départementales des territoires auprès de leur collectivité, ce qui nous assure une audience assez importante et ce qui nous permet de véhiculer des messages un peu différemment. Et je vais prendre deux secondes si vous me le permettez, Johanna, pour faire des remerciements à deux personnes. Donc, Monsieur Emmanuel Delanversin, qui est l'initiateur des émissions du MAC de l'urbanisme avec Radio Territoria. Il a fait la même chose en interne. Et vraiment, c'est grâce à lui qu'il y a eu cette impulsion. Et puis, la deuxième personne que vous connaissez, Johanna, qui est déjà intervenue sur ces ondes, c'est Vincent Montrieux, qui est le sous-directeur de la qualité du cadre de vie, qui nous laisse une grande liberté et qui nous font confiance pour réaliser ces émissions.
Et on les salue évidemment aujourd'hui pour ces un an du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Alors Jean-Baptiste, puisqu'on est dans les dates, il y en a une qu'on a beaucoup évoquée dans les émissions. C'est celle du 1er juin 2021 qui est désormais passée, ça y est. Alors on en est où aujourd'hui ?
Alors globalement, on va dire que les objectifs qui ont été fixés par la ministre et par le ministère de la... de le ministère délégué en charge du logement sont atteints. Et alors je dis globalement parce que il y a encore quelques petites étapes où il y a tel ou tel endroit où on a encore quelques difficultés, mais globalement ils sont atteints. Je les rappelle sur les déjà il fallait clarifier ou sécuriser le contexte, le cadre juridique. Donc on a mené beaucoup de concertations sur deux textes qui sont maintenant en discussion au Conseil d'État et qui devraient paraître soit fin juin, soit début juillet. Et c'est des discussions pour être bien certain que nos textes sont parfaitement corrects et s'insèrent bien dans la hiérarchie des normes actuelles. Et puis concernant Plateau, c'est opérationnel, on l'avait annoncé dès juillet de l'année dernière. Mais là, on a des collectivités qui nous envoient des dossiers et donc on a fait des mises à jour de versions et ça fonctionne correctement. Avec Plateau, Ado s'est aussi amélioré au fur et à mesure de l'année. Et puis Aviso, qui est l'outil, on en reparlera beaucoup aujourd'hui, qui est l'outil pour permettre aux services consultés de rendre des avis de manière unitaire, eh bien, on l'a mis en production. Donc, pour ce qui concerne les solutions, ça fonctionne correctement. L'autre sujet sur lequel on a bien avancé, c'est sur l'accompagnement des directions départementales des territoires. Chaque DDT a au moins un agent, mais généralement plus, qui ont fait l'objet d'une formation complète, à la fois la manipulation des outils qui sont les leurs, mais aussi une formation pour accompagner les collectivités territoriales. Donc elles sont d'excellents relais maintenant pour accompagner les collectivités, les services consultés pour la suite des travaux. De la même manière, on a mis en œuvre une communication beaucoup plus large vis-à-vis des collectivités. Cette radio en est l'exemple, mais on a d'autres canaux, pour faire de la communication. Et puis on a mis en œuvre aussi, on en avait parlé maintenant en avril, je crois, suite au copil d'avril, un fonds dans le cadre de France Relance pour aider au financement des collectivités. Le point le plus important, c'est que vous avez maintenant au sein des départements, des directions départementales qui sont vraiment aguerries pour vous accompagner.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas ça a l'air d'aller dans le bon sens, hein, puisque on va le rappeler, cette date du 1er juin 2021 était celle à laquelle les communes qui étaient prêtes pouvaient anticiper la saisine par voie électronique. Alors Jean-Baptiste, vous nous dites que les services de l'État sont prêts. Est-ce que ça veut dire que tous les usagers peuvent dès aujourd'hui déposer leur demande de permis de construire en ligne ?
Alors, entre les services de l'État et les usagers, il y a les collectivités territoriales. Donc pour qu'ils puissent le faire, il faut que les collectivités territoriales soient prêtes. Donc certaines le sont déjà, clairement. Nous, on en a qui sont raccordées. Puis il y en a qui sont pas forcément raccordées à Plateau, mais qui ont ouvert des guichets. On peut citer Brest, Paris. Donc un certain nombre de métropoles, mais aussi de plus petites communes, acceptent déjà les dossiers dématérialisés. Donc ça avance. Mais c'est pas vrai partout. Et on voit une montée en puissance de la part des collectivités. Mais ça reste à faire. Je rappelle les deux obligations, on les rappelle généralement à chaque émission, la saisine par voie électronique pour toutes les communes et de l'autre côté, pour les communes de plus de 3500 habitants, la loi Elan qui oblige à la fois à la réception mais aussi à l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc il reste encore un certain nombre de mois pour se préparer à l'échéance du 1er janvier 2022. Faut pas traîner maintenant. La plupart des communes sont bien sont bien au courant de ce qu'il y a à faire, mais globalement, on estime que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse accompagner les collectivités au 1er juin pour le déploiement en vue du 1er janvier 2022.
Une dernière question, Jean-Baptiste, avant d'attaquer la thématique du jour, hein, qui concerne les services consultés. Quelle est la marche à suivre pour les collectivités qui voudraient anticiper la date du 1er janvier 2022 dans la mise en conformité de leurs obligations réglementaires ?
Alors, anticiper, ça va commencer à devenir difficile, mais en tout cas, pour être prête au 1er janvier 2022, il y a 5 sujets. Il y a 5 sujets. Maintenant, on résume de plus en plus. Il y a des émissions qui sont consacrées qu'à ça. Hein, donc, faut les réécouter. D'abord, c'est pour celles qui sont soumises à la loi Elan, c'est se doter, si ce n'est pas déjà fait, d'une solution, d'un logiciel métier d'instruction qui permet l'instruction de manière dématérialisée. Ça, c'est et puis de se raccorder à plateau aussi. Deuxième sujet, c'est s'équiper du matériel informatique pour permettre aux services instructeurs, donc aux agents instructeurs, de travailler correctement. Des grands écrans, éventuellement un grand écran pour partager en réunion les dossiers, mais globalement, voilà, le matériel informatique qu'il faut. Il faut aussi former ses agents. Donc là, on en a déjà parlé. Les formations du CNFPT peuvent être un bon sujet. Et généralement, les éditeurs de solutions informatiques proposent des formations à leurs propres outils. C'est logique. Et il faut s'inscrire sur ces formations. Et puis, il faut un tant soit peu anticiper les problématiques d'organisation. Y réfléchir, ne serait-ce que pour se donner la capacité d'être réactif par rapport aux premiers dossiers dématérialisés qui vont arriver. Pas forcément avoir défini tout jusqu'au bouton de guette, mais au moins se dire ben voilà comment on va traiter les dossiers, voilà comment on va traiter le double flux entre les dossiers papier et les dossiers dématérialisés, parce que ça permettra de toute façon mieux de s'ajuster par la suite. Et en dernier, le cinquième point, c'est communiquer auprès des usagers, commencer à leur dire qu'ils pourront déposer de manière dématérialisée. C'est important, hein, pour deux raisons. Une, parce que une fois que vous avez fait tous ces efforts, autant avoir le maximum de dossiers qui sont nativement dématérialisés. Et la deuxième raison, c'est que la publicité est nécessaire pour que ça soit le guichet que vous allez ouvrir, soit le seul billet, soit le seul média pour recevoir des demandes d'autorisation d'urbanisme dématérialisées. Donc voilà. Donc évidemment, vous avez sur les sites, en particulier Osmose, vous avez toute la documentation. Pour vous inscrire sur le site Osmose, c'est simple. Vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche dématérialisation des autorisations d'urbanisme, vous tombez sur la page du ministère et là vous avez véritablement, on l'a réactualisé très récemment, vous avez toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous orienter dans la documentation, avoir un lien sur le fonds pour France Relance pour être financé. Donc il y a vraiment toute cette information qui est sur cette page internet du ministère.
Merci Jean-Baptiste pour cette introduction et puis ces éléments qu'il était utile de rappeler à nos auditeurs. D'ailleurs, chers auditeurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions. Enfin, d'ailleurs, je dis nous, mais plutôt les poser à Jean-Baptiste Lannes, le directeur de DématADS, qui est avec nous pendant toute l'émission. On y répondra évidemment en fin d'émission. Mais pour l'instant, on attaque. C'est parti pour la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. La thématique du MAG.
Et aujourd'hui, les services consultés, Jean-Baptiste Lannes, une première question assez simple. Qui sont-ils, ces fameux services consultés, et quel est leur rôle dans le processus d'instruction ?
Alors, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit qu'il fallait quand même revenir aux fondamentaux pour expliquer ce que c'était que les services consultés et pourquoi il y avait tant de services consultés dans l'acte de construire. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est des redites ou c'est des choses qui sont classiques ou même tout à fait comprises et puis acquises, mais je me suis permis de faire ce retour aux fondamentaux. L'acte de construire est finalement très 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 structurant et très impliquant dans notre vivre ensemble et dans notre société finalement. C'est un des actes les plus structurants et les plus lourds de sens. Et donc, de facto, il peut y avoir des tas d'effets sur des tas de politiques. Et comme il peut y avoir des tas d'effets sur des tas de politiques, il y a des tas de réglementations, des tas de législations qui sont en face. Pour l'information des auditeurs, on a dénombré le nombre de codes qui peuvent être impliqués dans l'acte de construire. Il y en a 16 Donc je vais vous en citer les principaux. Le code du patrimoine, et là on comprend et on pense tout de suite aux abords des monuments historiques, donc avec les architectes des bâtiments de France, on ne peut pas construire n'importe quoi à côté du château de Versailles. Le code de la défense, avec les polygones d'isolement, quand vous avez une base militaire, vous pouvez avoir un polygone d'isolement qui vous empêche de construire près, bon, ce genre de sujet. Le code de l'environnement, avec des projets qui peuvent être soumis à études d'impact, par exemple. Mais vous avez aussi le code rural et de la pêche pour la préservation des zones agricoles, pour certaines catégories de zones agricoles. Vous avez aussi le code du commerce, parce que là, pour l'ouverture de surfaces commerciales, on ne peut pas ouvrir des surfaces commerciales n'importe comment en France. Et puis, vous avez le code de la construction et de l'habitation pour certains types de constructions, comme les ERP, donc les établissements recevant du public, et les IGH, les immeubles de grande hauteur. Et ça en matière d'accessibilité et de sécurité incendie. Donc ces codes, on les appelle en fonction de deux sujets généralement. D'une part, la nature du projet. Si vous changez un Velux dans votre toiture, ça ne sera pas la même chose que si vous construisez un hôpital, par exemple. On imagine bien. Et puis, à sa localisation. Si vous êtes dans une zone très dense, si vous êtes dans une zone rurale, vous n'aurez pas les mêmes contraintes. Et donc, à chaque code, vous avez un avis qui peut être requis auprès d'un service, auprès d'un expert. Et là, c'est au centre instructeur, que ce soit en collectivité territoriale, s'il mutualisé ou pas, ou à la direction, ou dans les directions départementales, d'aller chercher les avis de ces différentes autorités.
Alors, si je comprends bien la nécessité hein, de ces avis, est-ce que la conformité des codes est la seule raison qui pousse un centre instructeur à demander un avis ?
Eh bien non. Merci
Johanna.
Évidemment que non. Eh bien non. Il n'y a pas que la conformité au code. Il y a aussi le fait que quand vous construisez un édifice ou que vous modifiez la construction d'un édifice, vous pouvez l'insérer dans une trame urbaine. Et cette trame urbaine, eh ben, il y a des routes, il y a des réseaux d'évacuation d'eau sanitaire. Vous avez aussi l'électricité, le téléphone, et maintenant vous avez la fibre, etc. Donc, il faudra que dans le futur, vous puissiez raccorder votre bâtiment à ces différents réseaux. Je peux donner un exemple à titre personnel. J'ai fait une modification de la toiture de ma maison et pour pouvoir y aménager deux chambres, eh bien, j'ai fait une demande de une demande préalable de travaux, une déclaration préalable de travaux, excusez-moi. Et en retour, j'ai reçu l'avis avec j'ai reçu la décision, donc l'arrêté de la mairie, mais aussi avec les avis de deux gestionnaires de réseau qui disaient ça ne pose pas de problème et il n'y a pas de difficulté à insérer cette construction ou cette évolution dans nos réseaux. Et il y avait les services techniques qui avaient dit les eaux pluviales, elles doivent être évacuées au sein du jardin par infiltration, par exemple. Les eaux pluviales ne sont pas rejetées maintenant dans le réseau classique. Donc voilà, ces avis techniques sont là pour effectivement que votre bâtiment se positionne correctement. Il peut même y avoir des avis qui sont avec des coûts, où on vous dit pour raccorder le terrain, ça va coûter tant, etc. etc. Donc voilà.
On est d'accord pour dire que tous les avis ne sont pas de même nature.
Non. Alors, il y a des avis qui sont obligatoires, qui sont prévus par les différentes réglementations, et puis il y a des avis qui ne sont pas obligatoires. Et dans le cas des avis obligatoires, vous avez des avis qui sont contraignants, avec que l'on appelle conformes, c'est-à-dire que si on vous dit non, vous êtes obligé de vous soumettre ou en tout cas de modifier substantiellement votre projet. Et puis d'autres sont simples et à ce moment-là sont non contraignants. Certains peuvent avoir effectivement des préconisations, voire des réserves. Et comme je l'ai dit, certains peuvent même avoir des coûts qui sont prévus pour l'aménagement ou le raccordement du terrain.
Tout ça veut dire que finalement, il y a une grande diversité dans les acteurs concernés ?
Alors, c'est absolument le cas. Grande diversité et puis grande hétérogénéité selon les cas et selon les territoires. Les organisations ne sont pas du tout les mêmes d'un territoire à l'autre. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des services de collectivité territoriale de tout niveau. Ça peut être une communauté de communes, ça peut être un niveau départemental, ça peut être un syndicat plus grand, plus petit qu'une communauté de communes ou qu'un département. Vous avez bien évidemment des services déconcentrés de l'État, avec le ministère de la Culture, la direction départementale des territoires aussi peut avoir donné des avis. Vous avez aussi dans les services qui sont consultés des commissions, qui peuvent être présidés par le préfet ou son représentant dans lesquels siègent des élus et des personnes ayant autorité. Donc les commissions qui sont connues, c'est commission d'accessibilité, commission sécurité incendie, mais vous avez aussi la CDPNAF, etc. Donc il y a beaucoup de commissions qui peuvent rendre des avis, qui sont des commissions pour obtenir un certain consensus. Vous pouvez même avoir des administrations centrales, je pense au ministère de la Défense qui peut lui rendre des avis, mais vous avez aussi pour les sites classés, vous pouvez avoir des avis qui sont rendus par l'administration centrale. Et puis vous avez aussi des gestionnaires de réseaux de droit public ou de droit privé. Ça peut être à la fois des autorités concédantes, mais vous avez aussi des autorités concessionnaires, des services concessionnaires. Donc vous pouvez avoir un syndicat départemental d'électricité et Enedis. Et de temps en temps, vous interrogez Enedis directement, et de temps en temps, vous interrogez le syndicat départemental qui va sous-consulter Enedis. Donc ça peut dépendre des pratiques et des usages des territoires. Mais sur certains dossiers, on peut arriver, alors des dossiers complexes, pas des dossiers simples, pas un Velux dans votre toiture, en tout cas, il faut l'espérer, mais vous pouvez arriver à 40, jusqu'à 40 consultations.
Et ça commence à faire du monde, hein. Ça fait un petit peu jungle de réglementation et puis d'acteurs. Comment est-ce que le demandeur peut s'en sortir dans tout ça ?
Alors, le demandeur, il n'a pas besoin, lui, de connaître l'ensemble des réglementations, hein, puisqu'il est sur son cas particulier. Donc, il faut qu'il connaisse les contraintes qui se posent à son cas particulier. Et c'est plutôt au service instructeur d'aller requérir les avis qu'il juge nécessaires pour que l'autorité compétente, généralement le maire, puisse rendre un arrêté. Mais la bonne pratique qu'il faut encourager et que les collectivités encouragent, c'est que si le dossier est un peu substantiel, ou même pour n'importe quel dossier, c'est d'aller voir le service instructeur pour essayer de présenter un pré-dossier et voir s'il y a des contraintes particulières ou s'il y a des sujets. Ce qui permettra la plupart du temps de se rassurer. Si vous arrivez avec votre dossier de maison individuelle, vous allez pouvoir vous rassurer et puis vous allez éventuellement enregistrer les quelques demandes qui sont des demandes complémentaires.
Merci Jean-Baptiste de nous rassurer. Pour le programme DEMATADS, hein, qui travaille à l'échelle nationale, comment est-ce que vous faites pour gérer toute cette complexité ?
Alors, j'avais même. C'est vrai que c'est une complexité, puisqu'il faut qu'on puisse finalement adresser, alors c'est pas un bon terme, mais qu'on puisse discuter avec tous les services consultés. Mais j'allais dire que c'est l'essence même du programme DEMATADS, et en particulier de Plateau, de gérer cette complexité. On est là pour gérer cette complexité, cette hétérogénéité et cette diversité des cas. Et pourquoi ? Parce que Plateau est fait pour en servir de hub et donc pour permettre de raccorder le service consulté avec les centres instructeurs duquel il pourra avoir des dossiers. Et à l'inverse, le centre instructeur d'être raccordé avec les services consultés qu'il pourrait solliciter. On peut donner deux exemples. Donc un exemple d'un service départemental incendie et secours. Donc il y en a dans chaque département, sauf pour Paris et Marseille, puisqu'ils dépendent des pompiers et du ministère de la Défense. Mais dans le cadre d'un service départemental incendie et secours, pour lui, il va avoir des dossiers de l'ensemble du département en matière d'accessibilité et de sécurité incendie. Et donc, il ne va pas aller se raccorder à chaque dispositif de centre instructeur qui a un dispositif propre. Donc là, le mieux, c'est qu'il se raccorde à Plateau. Les centres instructeurs se raccordent à Plateau. Tout le monde est raccordé à Plateau et c'est Plateau qui fait le dispatching. Donc ça fait une connexion pour chaque acteur et on gère cette absence de point à point. C'est vrai aussi pour un gestionnaire de réseau. On a, dans les discussions qu'on a à l'heure actuelle avec un certain nombre de gestionnaires de réseau, on a des gestionnaires de réseau qui ont des réseaux qui vont traverser la France et donc qui concernent certains départements, pas d'autres, et puis alors qui dépassent l'horizon des régions. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire, le gestionnaire de réseau se raccorde à plateau et quand on est près du réseau concerné, à ce moment-là, le service instructeur retrouve le service gestionnaire et peut lui envoyer une demande d'avis, donc ce qu'on appelle une consultation, et il reçoit l'avis en retour.
Donc on comprend bien que les services consultés doivent se raccorder à plateau. Mais alors, comment ça marche pour eux ?
Alors, on a été obligé de faire une typologie et finalement, il y a trois modalités pour se raccorder à plateau. Je vais faire, pour que ça soit très, très pédagogique, on leur a donné des noms. Il y a les gros, les petits et les internes. Voilà. Donc, alors c'est pas du tout, bien évidemment, péjoratif, mais c'est pour essayer de les distinguer. Donc, pour les gros. Les gros, ce sont les services qui consultés, qui rendent beaucoup d'avis. Donc, généralement, ceux-là, ils ont déjà des outils internes, des outils informatiques pour gérer ces demandes, pour connaître les délais de réponse, pour savoir comment les positionner par rapport à leurs contraintes et à leur métier. Et donc, ils ont déjà des outils. Et eux, on leur conseille ardemment et on travaille avec eux pour qu'ils se raccordent à plateau. Parce qu'ils ont un outil métier, donc ils vont pouvoir, quand ils vont se raccorder à plateau, récupérer l'ensemble des informations de la demande d'autorisation d'urbanisme, récupérer les pièces justificatives, et ça leur permettra de gérer cette complexité. L'autre sujet, c'est que si c'est des gros, ils ont une organisation avec plusieurs instructeurs, voire plusieurs centres instructeurs répartis sur le territoire, et donc ça va leur permettre de gérer cette complexité en interne qui n'a pas à être portée par plateau. Donc là, c'est très simple. Une fois qu'il est raccordé à plateau, que le centre instructeur aussi est raccordé à plateau, le service instructeur transmet sa demande d'avis via son logiciel. Elle est envoyée à plateau. Plateau notifie le service consulté. Le service consulté récupère cette notification, récupère le dossier et remet son avis. Et ça retransite dans le sens inverse par plateau. Deuxième cas de figure, c'est les services consultés qui rendent peu d'avis, ce qu'on a appelé les petits. Voilà. Eux n'ont pas forcément besoin d'outils, donc ils n'ont pas d'outils pour le faire. Généralement, ils reçoivent un document et puis ils répondent à la main en disant il y a telle ou telle contrainte ou il n'y a pas de contrainte, il y a pas, le service n'est pas concerné ou pas pertinent. Et là, on a créé un outil qui s'appelle Aviso. Donc, je vous l'avais annoncé. Donc, Aviso, c'est un outil qui permet à un service d'être enrôlé. Donc, on verra ça un peu plus tard dans notre discussion, mais qui permet de recevoir des notifications sur sa boîte courriel pour dire voilà, vous avez reçu un dossier sur lequel on vous demande un avis, et à ce moment-là de se connecter à Aviso par une interface internet web, et puis de récupérer le dossier. Alors, de l'instruire par devers soi. Donc là, il n'y a pas de fonctionnalités particulières, mais après de se connecter une fois qu'on a instruit le dossier, de rendre un avis qui est un avis où on peut mettre une pièce justificative. Donc là, c'est la même chose que pour plateau, sauf que là, il faut se loguer sur Aviso pour ce service. Alors, le troisième et dernier grand cas de figure, parce que bien évidemment, il y a certainement des cas de figure que je n'ai pas décrits et qui font appel à un certain nombre de particularités, mais là, le dernier grand cas de figure, c'est le service instructeur qui sollicite un service interne à la collectivité, interne à la communauté de communes ou interne à la commune. Et là, c'est ce qu'on appelle des services de proximité, c'est-à-dire que globalement, c'est des services qui sont trois portes derrière, trois portes dans le couloir ou qui sont à la communauté de communes, mais on est sur un périmètre qui est très bien décrit. Et a priori, ils peuvent partager le même outil. Les éditeurs de solutions informatiques proposent des modules de gestion des avis pour les avis internes. Et là, c'est la valeur ajoutée de plateau, puisqu'on est sur des périmètres qui sont identiques entre le service instructeur et le service consulté. La valeur ajoutée de plateau, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas la peine de passer par plateau. Ça peut passer. On peut passer directement par ces outils. Et donc, c'est plus facile, c'est plus simple. Ils peuvent décrire leur organisation plus facilement. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite que de passer par plateau, même si plateau va rester simple.
Si on reparle de chacun des grands cas de figure hein, que vous venez d'énumérer, concrètement, comment les services consultés déjà équipés d'un logiciel informatique, donc ceux que vous avez appelés les gros, peuvent-ils se raccorder à plateau? Quelle est la marche à suivre?
Alors, on est déjà en relation avec les services de l'État qui sont concernés, en particulier le ministère de la Culture qui sont déjà raccordés, donc je ne vais pas évoquer ce cas-là, évidemment. Pour les services consultés, là aussi, il faut qu'ils aillent sur la dématérialisation des autorisations d'urbanisme sur le site du ministère, et il y a toute une indication avec des adresses à solliciter. Et on a même fait un jeu de loi qui est facilement trouvable. Sur Osmose, il y a un dossier pour les partenaires informatiques. Il y a un jeu de loi avec les différentes étapes qui permettent d'accéder à la fin des fins aux services support et aux différents services et espaces de test, espaces de recettes pour commencer à développer le module de raccordement. Et on accompagne les services consultés. On a une équipe support qui accompagne les services consultés qui souhaitent se raccorder à plateau. Et on travaille. Alors, l'autre sujet qu'il faut dire, c'est qu'on travaille avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR. On anime un COPIL, donc un comité de pilotage qu'on a appelé gestionnaire de réseau, et pour lequel on pilote un certain nombre d'expérimentations qui sont faites avec des gestionnaires de réseau qui sont un peu en avance. Donc, on peut citer Veolia, GRT Gaz, Enedis, Suez, Trapil, Terega. Donc il y en a un certain nombre qui sont déjà montés et qui ont commencé soit à tout le moins à bien découvrir le sujet, à quantifier et à savoir ce que ça allait leur demander, soit qui ont commencé déjà à développer leur solution et qu'on espère raccorder d'ici la fin de l'année.
En ce qui concerne les petits, hein, c'est-à-dire ces services qui rendent peu d'avis et qui n'ont pas, vous l'avez dit, les outils dédiés, comment accèdent-ils à Aviso? Avec n'importe quel ordinateur?
Alors, la réponse est oui, du moment que l'ordinateur est connecté à Internet, évidemment. Hein, voilà. Mais pour ce faire, il faut être enrôlé. Alors, je ne vais pas décrire le processus d'enrôlement technique, puisqu'il est d'une part un tout petit peu technique, même si c'est pas très compliqué. Et deuxièmement, on est en train de concevoir une documentation pour ces services consultés qui souhaitent utiliser Aviso, donc a priori qui ont peu de demandes d'autorisation d'urbanisme. Mais donc cette documentation, il y aura des fiches pour demander un enrôlement, voir comment on fait, sachant que c'est pas la peine que tous les services consultés s'enrôlent d'un coup. Il faut d'abord qu'il y ait des collectivités qui nous transmettent des consultations. Donc il faut d'abord qu'il y ait des collectivités qui se raccordent à plateau, qui transmettent des consultations en disant bah tiens, là j'aimerais bien que ce service consulter soit enrôlé. Donc cette documentation, on est en train de la concevoir et on est en train de la déployer au niveau des directions départementales des territoires. Parce que pour nous, c'est important qu'au niveau des directions départementales des territoires, il y ait une bonne maîtrise des services qui peuvent être consultés sur le territoire. En particulier parce que la direction départementale, elle instruit elle-même des dossiers, donc elle connaît les services qui sont consultés. Donc il y a une opération d'enrôlement, on peut pas le faire, il faut se déclarer. Ça va arriver, on est en train de concevoir. En juillet, je pense qu'on en aura de la documentation sur Osmose sur ce sujet. Donc voilà. Les ressources sont en cours de conception. On est un tout petit peu short là-dessus, hein, je le reconnais bien volontiers. On aurait bien aimé qu'elles soient déjà présentes, mais elles le seront plutôt courant juillet. Et on aura, nous, bien informé les DDT pour qu'elles puissent vous accompagner.
Est-ce que vous pouvez quand même nous dire quelques mots sur la procédure d'enrôlement ?
Alors, en fait, pour cette procédure d'enrôlement, là encore, il faut d'une part qu'il y ait une collectivité qui soit demandeuse, que vous soyez enrôlé en tant que service consulté. Ce n'est pas la peine de vous enrôler si vous n'avez pas de commune qui va vous transmettre de manière rapide un dossier, parce qu'à ce moment-là, vous allez vous enrôler et puis vous allez oublier le compte et ça va devenir compliqué derrière de retrouver le compte, etc. Donc je le dis, faisons-le quand c'est utile, donc quand il y a une collectivité. Et c'est la collectivité qui va s'adresser à la DDT, donc il y a un système où la DDT valide l'enrôlement. Donc on a véritablement un dispositif, donc elle va dire, bah voilà, je voudrais envoyer à tel service, voilà une procédure avec une description du service. La DDT va valider informatiquement le compte pour être enrôlé. Et puis après, il y a une procédure à suivre. Comme classique, hein, quand on vous demande, on vous crée un compte, il faut valider le compte, etc. C'est pas forcément le lieu de le décrire ici. Et c'est pour ça que je vous renvoie à une documentation qui va bientôt arriver. Il y a déjà de la documentation sur Aviso, sur Osmose, mais je dirais que c'est pour une présentation plus générale et pas très pratique pour le moment.
On en reparlera en temps voulu, alors merci Jean-Baptiste. Les derniers cas de figure, un des services consultés dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est celui des services internes. Alors, quelle est la marche à suivre pour eux ?
Alors, c'est là pour le coup... Excusez-moi. Là, pour le coup, c'est le cas le plus simple, puisque, a priori, c'est la collectivité territoriale qui a un outil et qui va prendre la tâche des services consultés de son périmètre et qui va leur proposer ces outils. Nous, on intervient très peu. Et puis, à terme, l'outil de la collectivité sera raccordé à plateau pour les autres services consultés. Donc, vous l'aurez compris, et puis j'espère que c'était clair, mais globalement, plateau reste au centre de ces interfaces. Pour les services consultés internes, non, mais pour les petits et les gros, oui, ce qui va permettre que la dématérialisation soit complète et puis aille le plus loin possible et qui va permettre d'économiser du temps et de l'énergie et pour l'ensemble des acteurs. Sachant que, clairement, hein, ce que nous disent les acteurs, c'est que peut-être que les gros dossiers, ben, ils resteront papier, mais que pour les petits dossiers qui vont très très vite, où finalement c'est un avis formel qu'on demande aux services consultés, ben, ça ira beaucoup plus vite.
Merci Jean-Baptiste pour compléter vos propos, en particulier sur les acteurs qui ont un périmètre plus large que celui des collectivités. On va maintenant écouter Estelle Lachaud. Elle est directrice adjointe de l'Agence technique départementale de Dordogne, également vice-présidente du réseau Déclic. On va l'écouter sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder et on revient juste après. Bonjour Estelle Lachaud.
Bonjour.
Alors vous êtes à la fois la directrice adjointe de l'agence technique départementale de la Dordogne. Vous êtes également vice-présidente du réseau Déclic. Alors je vais déjà m'adresser, si vous le voulez bien, à la directrice adjointe de l'agence technique départementale de Dordogne. En vous posant cette question, qu'est-ce que l'agence technique, qu'on appelle aussi l'ATD 24, quelles sont ses missions et puis quels services proposez-vous à vos collectivités dans le cadre du programme DEMAT-ADS?
Écoutez, l'Agence technique départementale de la Dordogne, c'est une vieille structure en Dordogne. On a été créé en 83 par le département, juste après les lois de décentralisation. On a trois grosses directions aujourd'hui. Tout ce qui est aménagement paysage, tout ce qui est assainissement, donc on accompagne les collectivités, et une dernière direction qui est le numérique. Donc là, on est 30 personnes. On travaille avec les collectivités depuis 30 ans bientôt, puisqu'on a travaillé avec elles dès 92 à l'informatisation des communes. Et donc aujourd'hui, on les accompagne sur pas mal de sujets. Tout ce qui est logiciel support, on va dire, la paye, la compta. On a un SIG mutualisé avec lequel on développe des applications. Et on est aussi là pour les communes, les communautés de communes, pour la sécurité juridique. Donc juste pour donner quelques chiffres, parce que c'est quand même important, et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à Déclic. L'ATD, au niveau du numérique, c'est 20 000 assistances par an, c'est 2 800 utilisateurs qui utilisent nos outils, c'est 650 collectivités, et c'est 180 formations données l'année dernière. Voilà, donc vous voyez qu'on est avec les collectivités de façon très régulière. Et donc au niveau de la dématérialisation de l'ADS, eh bien en fait, on a accompagné les collectivités à partir de 2015 sur les autorisations de droit des sols. En gros, on a accompagné la création des services instructeurs en leur fournissant le logiciel, en le paramétrant, l'administrant, et puis en les formant et les accompagnant au quotidien, c'est-à-dire que dès qu'il y a un petit souci, on assiste, et puis dès qu'il y a un changement réglementaire, on accompagne avec le logiciel les différents instructeurs. Et du coup, la dématérialisation de l'ADS, bah forcément, on est dans le projet à fond, j'oserais dire. puisque du coup, on a acheté le logiciel, le téléservice, pardon, qui est lié au logiciel d'instruction. On l'a acheté l'année dernière. Mon collègue est monté en compétence sur ce téléservice pour voir comment est-ce qu'il fonctionnait et comment on pouvait en paramétrer le logiciel pour que ça fonctionne correctement. Et donc là, aujourd'hui, avec les instructeurs, avec la DDT, on est en train de travailler à tout ce projet pour monter en compétence progressivement au niveau territorial et arriver jusqu'aux citoyens au 1er janvier 2022. Donc je ne sais pas si je peux vous décliner la procédure si vous voulez.
Eh bien, allez-y.
Donc en fait, la procédure, c'est qu'on a choisi de travailler d'abord avec les notaires. C'est-à-dire qu'eux déposent beaucoup de certificats d'urbanisme. Et donc, on a pris contact avec la Chambre des notaires et on a choisi des sites pilotes au niveau de la Dordogne pour accueillir les premiers CU dématérialisés. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien et on est en train de déployer ça à toutes les communes de Dordogne. Oui, je ne l'ai pas dit, en fait, au niveau de l'ADS, on travaille avec 11 services instructeurs. Il y en a 13 en Dordogne, plus les collectivités qui ne sont pas, qui sont directement gérées par la DDT. Et donc ces 11 services instructeurs représentent 380 communes. Voilà, donc c'est assez conséquent. La deuxième étape de notre plan de déploiement, c'est les architectes et les maîtres d'œuvre. Donc là, pareil, on est en train de travailler avec les ordres des architectes pour que dès septembre, les architectes commencent à déposer des dossiers de permis de construire pour qu'on arrive, nous aussi, à correctement paramétrer tous nos outils, toute notre organisation. Et donc, en décembre, on pense déployer ces dépôts dématérialisés de permis de construire par les professionnels à toutes les communes et pour être prêt au 1er janvier pour les citoyens.
Donc si on vous écoute, on comprend bien que vous êtes un opérateur public hein, de services numériques, un OPSN comme on dit. Et c'est justement à ce titre que l'ATD 24 est membre du réseau Déclic dont on a également parlé et dont on va parler maintenant puisque vous en êtes la vice-présidente. Qu'est-ce que c'est ce réseau Déclic ?
Alors le réseau Déclic, c'est une fédération. C'est une fédération qui existe depuis, un peu plus de 10 ans aujourd'hui. C'est une fédération d'agents publics. Et donc les OPSN, on est 46 aujourd'hui à faire partie du réseau. Ça représente à peu près 57% de la population française. On est en gros 800 agents à travailler au sein de ces structures. Et donc notre credo, c'est vraiment la mutualisation. Et puis finalement l'égalité territoriale, puisqu'en fait on accompagne tous les territoires, quel que soit la taille des collectivités, à la transformation numérique.
C'est un réseau plutôt important. Alors quel pourrait être son rôle, le rôle de Déclic au sein du programme DMAT ADS? Quel accompagnement pour vos OPSN adhérents?
Eh bien écoutez, au niveau de Déclic et de tous les opérateurs, on est très présent au niveau des collectivités territoriales, on est aussi présent au niveau des ministères et puis on est aussi des interlocuteurs un peu privilégiés des éditeurs. Et du coup, on fait souvent cette interface-là. Je pense qu'effectivement, on peut être assez important dans la mise en œuvre de cette dématérialisation de l'ADS. En tout cas, j'espère qu'on aidera l'État à réussir cette action-là et on mettra tout en œuvre en tout cas pour le faire. Et peut-être que ce qu'on pourrait faire au niveau collectif, c'est travailler et réfléchir à une communication auprès des citoyens pour leur expliquer quelle est la démarche, quel est l'intérêt de la dématérialisation, qu'est-ce qu'ils ont eux à y gagner et puis comment est-ce qu'on procède et comment est-ce qu'on trouve les plateformes pour venir déposer en ligne son permis de construire, sa demande de CU, etc. Donc voilà, moi ce que je vois, et on en a discuté avec les collègues de Déclic, c'est au moins cette communication commune qui nous semblerait intéressante parce que ça sert à rien que 36 000 communes en France réfléchissent à une communication, autant le faire tous ensemble et pour tous.
Merci Estelle Lachaud pour toutes vos réponses et on voit bien qu'on est très connectés en Dordogne. Hein. On est prêts pour des maths ADS. Merci beaucoup. Voilà pour l'interview d'Estelle Lachaud, hein, la directrice adjointe de l'agence technique départementale de Dordogne et vice-présidente du réseau Déclic. Alors on voit bien que le sujet qu'on a abordé aujourd'hui hein, touche de très nombreux acteurs, ça Jean-Baptiste vous nous l'aviez dit. Et on va maintenant passer à leurs questions qui sont nombreuses. C'est parti pour les questions des auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Alors Michel, le temps presse, mais on va quand même prendre le temps de répondre à quelques questions. Oui, on a en effet plusieurs questions sur le fil. On va commencer par celle de Jean-François qui nous demande si le processus de dématérialisation permettra ou conduira à réduire les délais d'instruction par les services d'Enedis.
Alors, d'une manière globale et générale et pour l'instant absolue, le programme n'est pas porteur. Le programme DEMATADS n'est pas porteur de réduction des délais d'instruction. Alors pourquoi je dis ça et je le dis que ce soit pour les services instructeurs ou que ce soit pour les services consultés, on espère que à terme il y aura des dossiers qui iront plus vite que les autres, mais il n'y a aucune obligation de réduire les délais. Et tous les acteurs qu'on a rencontrés, que ce soit les services consultés, que ce soit les services instructeurs, que ce soit les collectivités territoriales, les services de l'État, tout le monde nous a dit non. Ne demandez pas de réduction de délai. Il y a d'autres acteurs qui nous demandent de réduire les délais de manière systématique. Mais dans ce cadre de la DEMAT, ne nous imposez pas de réduction de délai. Donc la réponse est, c'est pas prévu dans le programme DEMAT ADS. Ça pourra arriver. On espère bien qu'à la fin des fins, il y ait des choses qui aillent plus vite que d'autres. Mais on n'a rien de contraignant qui est proposé par le programme, qui est proposé ou imposé par le programme DEMAT ADS.
On va poursuivre avec une autre question sur la liste des services qui seront raccordés à Plateau ou à Aviso. Est-ce qu'on trouvera cette liste quelque part ?
Oui. Alors, il y aura deux endroits. Donc, on a sur le site Osmose, on publiera régulièrement la liste des services consultés, donc qui sont inscrits et qui sont accessibles depuis Plateau, en fait, qui sont référencés dans Plateau, ça c'est important. Et puis, ça sera aussi publié sur on a un site support. Ils publieront cette même liste. Et puis, pour les outils informatiques, cette liste sera accessible. C'est-à-dire qu'on pourra appeler la liste des services qui sont consultés pour pouvoir justement les intégrer dans les outils d'instruction qui sont propres à chaque collectivité.
Et nous avons une question de Kevin, de la communauté de communes des Rives de Moselle, qui nous demande si un service consulté peut refuser d'être consulté en format dématérialisé. Les services de l'architecte des bâtiments de France souhaitent par exemple souvent recevoir les dossiers en format papier, car cela leur permet d'avoir pour certains projets l'aspect réel, visuel, qui permet d'identifier les couleurs exactes du projet par exemple.
Alors, c'est une très bonne question, parce que ça me permet de rappeler qu'il n'y a aucune obligation qui pèse sur les services consultés. En tout cas, aucune obligation que je qualifierais de réglementaire. La loi Elan ne le prévoit pas. Il n'y a pas de loi qui oblige à recevoir des dossiers de manière dématérialisée. Mais je vais faire deux mets. D'une part, de manière circonstancielle, par rapport à la question de Kevin, puisque en ce qui concerne le ministère de la Culture, il s'est engagé dans un programme pour qu'ils acceptent justement les dossiers dématérialisés, donc et au niveau pour que ça soit déployé au niveau de chaque unité départementale architecture et patrimoine. Donc a priori, vous trouverez des interlocuteurs de plus en plus allant à la dématérialisation. Donc c'est un énorme investissement du ministère de la Culture, avec beaucoup d'efforts, un investissement financier, mais aussi un investissement en énergie et en compétences. Donc vraiment là pour le coup, dans l'exemple, au fur et à mesure, normalement la situation devrait être plus favorable à la dématérialisation, ça premier sujet. Et puis le deuxième, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'obligation réglementaire, mais très très vite, je pense que si les acteurs, en particulier les collectivités, dématérialisent, la majorité des services consultés y trouveront leur intérêt. Et très vite, ils seront volontaires pour être sollicités de manière dématérialisée. Il y a peut-être quelques cas qui poseront peut-être question, des cas très particuliers, territoriaux, ou des cas d'affaires ou de dossiers sur lesquels tout le monde s'accordera à les traiter papier. Mais la plupart du temps, tout le monde sera très, très content de pouvoir traiter ça de manière dématérialisée. Et en cela, la crise sanitaire nous a beaucoup aidés pour faire progresser les aspects dématérialisés.
Et pour finir, je vais regrouper deux questions qui concernent les ERP, les établissements recevant du public. C'est des questions de Sandra et Sonia. La première question, c'est les ERP devaient être exclus de la démarche de dématérialisation. L'exemple a été pris d'une consultation du SDIS par Monsieur Lannes.
y a-t-il un changement ? Est-ce que les autorisations de travaux sont concernées par la DEMAT ? Et la deuxième, c'est quel lien pour les consultations au titre de l'accessibilité pour les ERP, notamment pour les commissions intercommunales et pour la SCDA ?
Alors, je connais pas l'acronyme, mais ça doit être accessibilité, commission d'accessibilité ou sous-commission départementale d'accessibilité, quelque chose comme ça. Alors, j'ai traité le premier sujet, c'est une question qui nous a déjà été posée, qui est l'exclusion des ERP et des IGH, les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur, de l'obligation de SVE, donc de l'obligation de saisine par voie électronique. Et en fait, effectivement, donc nos auditrices ont raison, ils sont bien exclus de l'obligation de saisine par voie électronique. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé, les collectivités peuvent ne pas accepter d'être saisies par voie électronique. Elles peuvent ne pas accepter. Mais rien ne leur interdit d'accepter d'être saisies par voie électronique. De la même façon, se basant sur cette exclusion de la saisine par voie électronique, les SDIS, les pompiers, peuvent refuser d'être saisis par voie électronique. Mais rien ne leur interdit d'accepter d'être saisis par voie électronique. Et depuis que nous travaillons sur le programme, nous travaillons avec le bureau prévention réglementation incendie de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur. Nous travaillons avec eux et on voit que la majorité des SDIS sont de plus en plus favorables à la dématérialisation. Ça ne veut pas dire que sur certains dossiers, on passera pas par... Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne passera pas par du papier. Ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas des services départementaux qui refuseront de le faire. Ils seront dans leur droit. Mais globalement, l'ensemble des interlocuteurs est plutôt regarde la dématérialisation de manière favorable. Et donc, ils peuvent le faire. Vous pouvez ne pas l'accepter, mais vous pouvez aussi l'accepter. Donc ça répond à la première question. La deuxième question, Michel, si vous pouvez me la répéter.
C'était quel lien pour les consultations au titre de l'accessibilité ?
Alors, très clairement, si ce sont des commissions qui sont sous l'égide du préfet ou de ses services, c'est typiquement le cas que l'on peut éventuellement outiller avec Aviso. Donc on crée un compte Aviso pour cette commission ou ces commissions. Et donc elle est saisie pour un certain nombre de dossiers. Et à ce moment-là, pour avis, et à ce moment-là, elle peut rendre l'avis. Ce qui me permet de dire que Aviso permet au secrétariat de la commission d'aller chercher le dossier. Et puis après, d'organiser sa commission comme il l'entend. Aviso n'est pas un outil de gestion collaborative. Hein, c'est juste un outil de consultation. Mais une fois que la commission c'est tenu, que l'avis de la commission a été rendu, qu'il a été validé et signé, à ce moment-là, l'avis pourra être joint dans Aviso pour être envoyé au service instructeur.
Merci Jean-Baptiste. Et avant de conclure, pour répondre rapidement à la question de Camille qui nous parle des évolutions réglementaires, on l'a dit, hein, elles arrivent, on en fera bientôt une prochaine émission de toute façon pour vous tenir informés de tous ces sujets. Voilà qui conclut notre émission, un spécial programme DEMAT-ADS sur les services consultés. J'espère que maintenant le sujet est bien clair pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, évidemment, toutes les équipes du programme se tiennent à votre disposition pour vous répondre. Jean-Baptiste Lannes en tête, évidemment. Merci Jean-Baptiste pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme DEMAT-ADS au sein de la direction en charge de l'urbanisme des ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et merci à vous, Michel Félep, chargé de mission animation territoriale au sein de la direction en charge de l'urbanisme des mêmes ministères. Un immense merci à tous les deux. Vous pouvez désormais retrouver cette émission en podcast, tout comme tous les numéros du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, y compris ceux consacrés au programme DEMAT-ADS. Si vous en avez loupé quelques-uns et que vous avez besoin de quelques précisions, c'est direction le site de Radio Territoria et tous vos agrégateurs de podcasts. Je vous souhaite un très bon appétit, vu l'heure qu'il est. Une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Radio Territoria.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.